les interviews de Radio Esperanza.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Esperanza, la radio du festival Esperanza. C'est le troisième jour, déjà pas mal de gens qui sont passés sur les scènes du festival, pas mal de grandes performances, de grandes prestations. Sur la scène découverte, c'était pas la scène la plus froide, hein, parce qu'il y avait pas mal de bons groupes. Il y avait entre autres Outz, enfin Renato, Baccarat et Outz, parce que ça a un peu changé ces derniers temps l'intitulé du groupe. Bonjour Renato.
Bonjour.
Alors nous ne sommes pas des inconnus, on va se tutoyer assez vite et on va essayer de ne pas faire de privé joke et on va essayer de...
Ouais, c'est sérieux.
Ouais, voilà.
Et correct.
Et il y a Leslie qui est avec nous, qui est une fan de la musique. Je pense que tu ne connais pas encore bien Renato.
Mais tu me l'as fait découvrir, Hubert. Moi, donc je sévis sur Radio Panique. Renato connaît bien les studios de Radio Panique. Donc, je l'ai découvert et j'ai comme un goût de trop peu. Et ça me fait bien plaisir d'en savoir un peu plus.
Ah ben, enchanté.
Oui. Et puis, on a aussi Pascal à la mise en onde. Grand merci. C'est ces travailleurs de l'ombre qu'il ne faut surtout pas oublier.
Voilà, super. Alors, Outz, Renato, tu venais jouer. Tu as joué au Sphinx la semaine passée.
Ouais.
J'ai pu assister à ton concert au Sphinx,
ouais,
qui était assez intéressant parce que c'était une petite formation. Vous étiez 4, 5 ?
On était 5.
5, c'est ça. 2 cuivres, le bassiste clavier.
Oui, notre Remy Berica de
voilà.
Du groupe.
Le percussionniste.
Et moi.
Bah oui, bien sûr, toi.
Donc ça fait 3, la section rythmique et 2 souffleurs.
Ouais. J'imagine que Outz sans toi, c'est pas possible.
Je suis le seul qui n'est pas remplaçable.
Voilà.
J'adore dire ça, j'ai trop
Alors, j'ai malheureusement pas pu assister à ton concert aujourd'hui au Festival Esperanza. C'était quelle formule que tu proposais cette fois-ci?
Ah ben, c'est une formule tout à fait différente du Sphinx. On a fait. Là, on était 7.
Ouais.
Donc, il y avait batterie et percussion, basse, moi, et trompette, trombone et sax.
Ah, donc il y avait un cuivre en plus et la batterie en plus. Ouais. C'est ça qui.
Et du coup, la percussion a une fonction super différente parce que. Le concert que tu as vu au Sphinx, on était, je peux pas dire acoustique parce qu'il y avait une basse électrique, il y avait des claviers, tout ça, donc on était amplifié, c'était pas du tout acoustique, mais elle avait une fonction plus minimaliste, je vais dire, un truc plus de soutien rythmique.
Ouais, ouais.
Et ici, elle a plus une fonction de couleur, quoi.
Mmh, bah oui.
Et ce percussionniste Nilo, avec qui on joue depuis un petit moment. Il est super, donc il en met pas trop, il met exactement ce qu'il faut pour colorer chouettement le morceau. Et il s'entend très bien avec le reste de la section rythmique, donc avec Dorian à la basse et Yves à la batterie. Ça fait une belle machine.
Et en fait, il est brésilien, il vient pas n'importe où, il a joué avec Seu Jorge, si j'ai bien compris.
Ouais, il avait joué avec Seu Jorge.
Qui est quand même un chanteur qui a eu son heure de gloire en Europe à un moment, maintenant on le suit un petit peu moins en Europe. Hein, sans doute, il est encore une grande star au Brésil.
Ouais, il est plus tourné vers le marché local maintenant au Brésil.
Voilà.
Parce que, il avait une musique très mélangée, très tournée vers la modernité. Et je veux dire, pas que les autres soient. Des musiques tournées vers le passé, voilà, c'est ça. Mais c'est juste moins roots, moins samba traditionnel, des trucs comme ça. Il était vraiment plus avec une optique rock, pop, comme ça. Mm-hmm. Et
assez proche de ce que tu fais, en fait, Matt.
Oui, moi j'aime beaucoup le premier album qu'il a fait, qui s'appelle Crew.
Est-ce que tu as repris au Sphinx un morceau de...
Ouais, on a joué un morceau de cet album.
Est-ce que tu l'as refait ici
Non, là on l'a pas fait.
Quoi, tu l'as fait que dans la petite envergure.
Mais ça nous est déjà arrivé de le jouer avec tout le groupe. Mais là, comme on n'avait que 45 minutes de set, on a mis plutôt des morceaux à nous, on avait envie de partager nos petits... Okay. Nos petits dossiers.
C'est toujours bizarre, c'est géométrie variable finalement là, ce que tu proposes. Comment tu fais pour gérer justement ce que tu veux jouer et avec qui tu vas le jouer quand un groupe tient autour de toi, mais qu'il y a beaucoup de pièces rapportées qui font l'énergie du groupe.
Ouais. Ah bah écoute, c'est super gay. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé un peu l'intitulé du groupe, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais.
Parce que comme il y avait plusieurs formules, Pour ce deuxième album, les morceaux sont beaucoup plus orientés singer-songwriting, comme on m'a dit que c'était. Et donc c'est vraiment des chansons voix-guitare. On est parti de ça, les voix-guitare. Et puis on met ce qu'on veut autour, en fait. Et
c'est
du
toi
coup,
qui colorie avec les musiciens que tu choisis, qui colorie un peu ouais. les arrangements.
Du coup, pour la plupart des morceaux, j'arrive avec des idées de morceaux, d'arrangements et on compose ensemble, et chacun donne son avis, mais en général, quand on arrive à l'étape de la répétition, c'est déjà un peu maquetté, j'ai déjà une vue assez précise du truc. Quoi. Mais bon, ça arrive très souvent qu'ils me disent, par exemple, non, il faudrait une nappe de cuivre là, et que je dise non, 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 et puis on essaye, en fait, c'est bien, alors on la garde. Mais j'essaie d'arriver avec une base le plus avancée possible aussi pour gagner du temps. Mais du coup, tous les morceaux, on peut les faire de 50 000 façons différentes. En fait. On peut les faire juste voix-guitare. Là, je suis en train de travailler avec un ami pianiste un morceau du deuxième album, Tudo Parado, juste voix-piano. Et on va faire un petit... On va enregistrer ce morceau.
Elton John.
Oui, c'est ça. On va faire un petit Elton John et puis sans doute avec un orchestre de cordes, tu vois, un petit Woods with strings.
Donc il y a toujours une énorme différence entre t'écouter sur album ou t'écouter en live. Le même morceau peut sonner complètement différemment.
Ouais, on a adapté les arrangements et du coup ils prennent. Ils ont des vies vraiment différentes en fait. Et c'est super chouette de le voir. Parfois c'est un peu fatigant à le préparer parce que du coup ça veut dire qu'il y a autant de répétitions pour chaque formule et ces formules sont choisies un peu en fonction de l'endroit où on va jouer, des disponibilités des musiciens, de plein, il y a plein de facteurs.
Du budget qu'on alloue au concert, j'imagine.
Du budget aussi.
Ouais. Parce que tu as une formule à deux hein, aussi.
Ouais, en fait pour...
C'est la formule minimale, ou alors tu peux faire des solos.
Je fais des solos aussi, ouais. Des solis, je sais pas si on dit soli, solo, je sais plus. Je fais des solios. je fais des concerts tout seul avec ma guitare, voilà, pour éviter le problème. Voilà. Je fais des concerts tout seul avec ma guitare et parce que je trouvais ça super de me confronter un peu, d'être vraiment le minimum quoi, de faire du coup j'apprends beaucoup en faisant ça
et puis j'imagine que une chanson tu peux voir si elle est bonne si vraiment tu la joues dans la manière la plus squelettique possible. Alors là si elle marche c'est que c'est vraiment une bonne chanson.
Ouais, c'est vrai que c'est un bon test vraiment, je pense aussi hein, ouais. Vraiment. Ouais. Et du coup voilà ils tiennent bien le coup, donc c'est que ça doit être des biens.
Ouais, alors moi effectivement le morceau Piratas,
ouais.
Il a déjà connu plein de versions différentes. Hein. J'ai connu une version au violon avec guitare. Alors là, au Sphinx, c'était un peu plus techno comme ça, un rythme un peu électro comme ça.
Ça, c'était une idée de Nilo, par exemple. Voilà. C'est lui qui a proposé un beat électro.
Et la version de base, elle est plutôt ska.
Ouais, plutôt ska et avec et même une partie un peu rock disto. Donc mais c'est vrai que c'est une partie plus qui tire vers l'avant. Et cette version qu'on a jouée au Sphinx, elle était plus smooth, comme ça, plus tranquille.
Ouais. Parce que les gens étaient couchés ou c'était prévu ?
Ça, c'était trop chouette, hein. Vraiment. On a endormi tout le monde. Non, c'est pas vrai. On était dans un chapiteau, il faisait hyper chaud.
Ouais.
Mais j'ai dégouliné là, c'était dur. Mais c'était super joli parce qu'il y avait plein de tapis. Le sol était complètement recouvert de tapis et les gens avaient une écoute hyper attentive, tout le monde était assis, couché, tu sentais que tout le monde était vraiment dans le concert, c'était très agréable et c'est complètement différent d'aujourd'hui quoi. Aujourd'hui là ça dansait, c'était très chouette.
Excellent.
Les deux sont super.
Alors depuis que ton nouvel album est sorti, enfin tu passes les portes des festivals, hein, t'as quand même ramé un petit peu par exemple pour jouer ici, hein, ça fait plusieurs années.
Ouais, ça faisait un moment que je voulais jouer ici.
Que tu voulais jouer ici et Jean-Yves, c'est avec ce nouvel album qu'il a accepté de te faire venir.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que tu sens que ce nouvel album est plus en phase avec ce que tu es et donc que ça communique mieux?
Ah, écoute, je sais pas. J'imagine que ça doit être très dur d'organiser un festival et que tu dois avoir des milliers de propositions et que ça dépend de tellement de choses. Donc voilà, je sais pas. On n'a pas été pris avant, on est pris maintenant. Je suis juste content qu'on soit pris maintenant. Je pense que c'est pas parce qu'on est mieux qu'avant. Tu vois, la musique a un peu changé, c'est vrai, mais c'est. En tout cas. les gens qui nous connaissent et qui nous suivent nous disaient depuis toujours, ah, le festival vous devriez jouer, c'est Esperanza. Mmh. Et c'est moi, personnellement, c'est mon festival préféré en Belgique, quoi. Vraiment, c'est celui que je préfère. Et vraiment, ce que ça m'a fait en arrivant ici, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est le 15e anniversaire d'Esperanza. Et je joue dedans, je suis trop content.
Ouais. Cool, quoi.
Ouais. Et puis c'est vraiment l'édition où ils ont mis le paquet. Ouais. Et une très jolie thématique aussi, puisque c'est Chasson, le vrai monstre. Mm-hmm. Et moi, c'est une question que je voulais te poser, Renato. On l'indique, tu as des petites origines exotiques, ouais, si on peut dire. T'es, même si tu n'as pas vraiment l'accent, mais tu es né au Brésil.
Ouais, je suis brésilien. Je suis brésilien.
Tu as la double nationalité, en fait?
Non, je suis 100% brésilien, monsieur.
100%. Donc, les questions de migration, ça te ouais, cause, j'imagine.
Ça me touche, ouais.
Et là, l'idée de... Enfin, la campagne d'Esperanza cette année, Chassons les vrais monstres, c'était, je vais te lire le petit pitch et tu vas me dire ce que toi ça, okay, tu t'en penses. Attention à la diversion. Non, les réfugiés ne sont pas une menace. Le vrai danger, c'est le TTIP et les traités de libre-échange. La diversion consiste à pointer du doigt des boucs émissaires ou à agiter des peurs afin de faire passer des décisions contraires à l'intérêt général.
Ouais.
Qu'est-ce que ça te dit?
Bah, écoute, moi, ça me paraît plutôt évident. Je suis tout à fait d'accord avec ce type de proposition. Quand même. Mais c'est fou comme... c'est une vieille recette qui marche tellement systématiquement et qu'on se fasse encore avoir. Je trouve ça vraiment dingue. Mais vraiment, c'est... Enfin, je vais mettre en rapport... Oui, évidemment, moi, tu vois, en ayant eu un passé comme le mien, moi, j'ai quitté le Brésil quand j'avais 10 ans, j'ai vécu en Espagne un petit peu, mon père musicien, donc on a un peu tourné, d'abord à Barcelone, puis à Paris, puis à Bruxelles, et ça n'a pas toujours été facile pour mes parents, parce que c'est difficile d'arriver avec deux enfants dans un pays où tu ne parles pas la langue, où tu n'as aucune assistance sociale, où tu n'as aucun... Et t'es un... Et c'est vraiment, une fois que t'es un peu hors du système, t'es complètement hors du système, et c'est vraiment une lutte très très compliquée de personnes bienveillantes, pleines de qualités, compétentes, cultivées, intelligentes, qui peuvent apporter beaucoup de choses, beaucoup de bien à cet environnement ici. C'est une lutte très compliquée pour ces personnes-là de s'intégrer, c'est difficile. Et même si plein de personnes ont aidé mes parents... on réussit à faire en sorte qu'on rentre dans les casques, machin, etc. Et à l'époque, alors que c'était moins difficile que maintenant, c'était déjà difficile. Ici, maintenant, comme la situation est de plus en plus compliquée et que notre petit monde, notre petite bulle privilégiée se referme de plus en plus sans que nous qui y vivons s'en rendent forcément compte... les histoires de Frontex et tout, c'est horrible, quoi. C'est vraiment... ça se referme de plus en plus, on n'en a pas vraiment conscience. Et donc, c'est vraiment parce que je regardais un film avec mon fils, le Fils de l'Homme. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film d'anticipation. Et c'est une Angleterre qui est complètement fermée hermétiquement. Et ça parle beaucoup de réfugiés. Tu vois, il y a cet aspect-là qui est abordé, quoi. Et c'est vraiment dur, hein, c'est vraiment pas drôle, quoi. Et mon fils, en regardant le film, m'a dit, ah, c'est marrant, papa, les films de science-fiction comme ça, pas drôle, mais ça ressemble de plus en plus à ce qui se passe maintenant, quoi. Mmh. Et c'est vraiment effrayant, quoi, comme on lève les boucliers, quoi.
Et c'est aussi le cas, je vous le recommande fortement, je te recommande Renato, le visionnage de Diversion, donc le film réalisé par l'équipe d'Esperanza, voilà, ce court-métrage où pareil, on est en anticipation en 2026 quand ce traité TTIP est signé et une société complètement sécuritaire, un peu ce que tu décrivais pour en Angleterre.
Oui, c'est le même type d'idée, c'est le même... ouais, la même couleur de film, enfin, la même prise de position. C'est... Oui, j'ai vu, il est très réussi. Ouais.
Tu me disais en antenne que tu n'étais pas très politisé, mais ce genre de thème d'inspiration, est-ce qu'on le ressent dans tes textes, dans tes chansons?
Oui, je pense. Moi, je trouve que... Je suppose que... Comment dire Je ne sais pas politiser dans le sens où je vais monter sur un tabouret et faire de la rhétorique pendant des heures pour essayer de convaincre les gens, mais je trouve que les personnes doivent, chacun doit porter son petit grain de sable et tirer notre univers vers le haut, quoi. Et effectivement, je trouve que dans mes chansons, même si c'est parfois avec humour ou avec façon un peu métaphorique, un peu éloignée, imagée, j'essaie de parler de ce genre de situation.
Mais je pense que d'ailleurs le titre de ton dernier album qui s'appelle Todo Mundo es Feio, tout le monde est moche. Déjà, ça parle un petit peu de ça, hein, parce que ça refuse de stigmatiser, parce que tout le monde est moche, donc on ne va pas stigmatiser des gens qui sont plus moches que d'autres, ou des gens qui sont plus négatifs que d'autres, ou plus...
Et que même